C'est quoi ça, la charge raciale ?
La charge raciale, c'est le fait de toujours devoir faire attention parce qu'on est noir, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, faire attention à comment on s'habille. C'est quelque chose qui prend la tête au quotidien.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre au problème de la charge raciale. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et on accueille Douce Dibondeau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Douce, pour parler de ce thème. Vous êtes écrivaine, poétesse, vous êtes à l'origine du podcast Extimité et vous êtes l'autrice de La charge raciale, vertige d'un silence écrasant, paru au mois de février chez Fayard. Vous allez donc nous expliquer ce qu'est cette charge raciale, comment elle vous touche personnellement. Mais d'abord, Douce Dibondeau, vous terminez l'avant-propos de votre livre par cette phrase « J'écris pour qu'à la fin du monde, la noirité soit ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors la noirité, c'est cet endroit de résilience, même si le terme est galvaudé, c'est vraiment la résilience qui permet de combattre justement cette charge raciale, de nous alléger, parce qu'on se rend compte à quel point dans notre expérience noire, il y a beaucoup de négatifs, il y a une condition qui nous écrase depuis notre naissance, et cette noirité-là, en fait, c'est ce qui nous permet d'être des guerrières malgré nous, comme Assa Traoré le dit souvent, parce que face au racisme, face à quelque chose qui n'aurait pas dû exister, c'est ça le racisme en fait, hein, c'est une déviation de l'histoire. On a ça en nous, on creuse à travers ce que nos ancêtres nous ont légué. On nous a légué pas mal de traumatismes, on nous a légué aussi des dons. Et pour moi, la noirité, c'est ces dons-là.
Alors Cyril, je vous pose la question, puisque vous êtes en forme, d'où ça sort la charge raciale ?
Nous avons fait une émission sur la charge mentale. Eh bien, c'est de là que vient ce terme. On le doit à la chercheuse Mabula Soumaoro. Mabula Soumaoro est aussi maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à la faculté des Tanneurs à Tours. C'est donc elle qui a forgé le terme dans son livre « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire » paru en 2020 aux éditions de La Découverte. Elle y consacre un chapitre sur la charge raciale. Et voilà comment elle la définit. La tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. Si je résume, que c'est un poids de devoir expliquer en permanence les situations où on est victime de racisme au sens large, et le plus souvent à des personnes blanches qui n'y ont jamais été confrontées, voire pire, qui réfutent cette réalité.
Mais cette chercheuse dit aussi autre chose.
Oui, Mathieu. Je la cite que la charge raciale se traduit aussi par le silence qu'on impose aux victimes de racisme, qu'on leur inflige de ne pas témoigner pour ne pas déranger, pour ne pas compromettre un accès à un emploi ou un logement, ou pour ne pas passer pour une personne difficile, obsédée par des problèmes liés à sa couleur de peau. La charge raciale, c'est aussi de calculer tout ce qu'on fait pour ne pas risquer d'être rattrapé par les clichés que les autres se font d'une personne noire, asiatique ou maghrébine. Sans cesse penser à comment se comporter pour être sûr de ne pas paraître trop brillant, trop débordant, trop fainéant, trop odorant, c'est plus qu'une simple charge, c'est invivable. Et c'est pourtant ce que vivent un paquet de gens que nous côtoyons tous les jours. Alors, est-ce que la charge raciale est une double peine ? Comment faire en sorte d'arrêter de s'excuser, d'arrêter de s'expliquer, d'arrêter de craindre d'être un cliché ? Comment résoudre ce problème ? Comment s'émanciper des stéréotypes ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril qui a vraiment tout donné sur cet enregistrement.
Il a enregistré dans sa salle de bain.
Il était effectivement au petit coin, certainement, quand il a enregistré cette chronique. Douce Dibondeau, le travail de Mabula Soumaoro dont parlait Cyril, ça a changé quoi ? C'était pas juste mettre des mots sur une situation, j'imagine que ça allait plus loin que ça.
Bien sûr, quand je découvre ce terme, moi c'est un vertige, hein, comme je le dis dans le titre, c'est donc une vérité qui enfin prend place. C'est une vérité que je vois en face, et à partir de là, je me dis, il y aura forcément des chercheurs, des chercheuses qui vont s'emparer de ce concept-là, et puis on aura trace de ce vécu-là, en fait, qui est très partagé en France et à travers le monde. Et puis les années passent, et je me rends compte qu'il y a rien, et du coup, paradoxalement, la charge mentale prend beaucoup de place, il y a du bruit médiatique autour, et en fait, c'est pendant très longtemps, j'avais pas tout à fait le lien, je savais pas comment articuler en fait cette charge raciale-là, et à partir du silence, je me dis, mais oui, il y a quelque chose, parce que cette charge raciale, on pourra en parler, porte en elle aussi ce silence. Et je me dis, mais en fait, face à ce non-bruit médiatique, il y a quelque chose à aller creuser.
C'est intéressant ce que vous dites sur le silence qui est intériorisé, c'est-à-dire que quand on est non-blanc, quelque part, on intériorise le fait qu'il faut s'adapter en permanence, et donc, quelque part, on accepte malgré soi les clichés qu'on nous renvoie. C'est ça oui. qui est aberrant.
Oui, bien sûr. Depuis l'enfance, c'est ce que je dis. En fait, nous, enfants, on se construit déjà dans une perte d'insouciance. Il y a un moment où c'est ce que les Américains appellent « the talk », donc la discussion que les parents ont avec les enfants noirs racisés. On nous prévient en disant que vous allez devoir faire 3-4 fois plus que les autres. Il faut faire attention. Ne vous habillez pas comme des racailles, entre guillemets, pour sortir du lot et ne pas vous faire contrôler par la police. Apprenez à bien parler, à bien vous tenir, etc. etc. Donc on grandit là-dedans.
Parmi les, on aime bien ici les découvrir des nouvelles expressions, parmi les techniques, il y a le code switching, vous nous dites ce que c'est ?
Oui, le code switching, c'est le fait de changer en fait sa manière, notamment de parler, mais ça peut être aussi son attitude dans des espaces majoritairement blancs, notamment au travail. On va porter des masques et imaginons qu'on ait un accent dit de banlieue, et ben on va faire sa voix, ce qu'on appelle sa voix blanche en fait. On va adopter certains codes et même la hauteur de la voix comme ça pour parler et se sentir plus intégré et plus parisien et plus etc. Et tout ça en fait c'est des codes qu'on n'a pas forcément conscience d'ailleurs. Mm-hmm. C'est automatique quoi. C'est voilà, on met un masque et hop, on performe.
Et vous l'avez eu, the talk ?
Oui, bien sûr. En plus, alors moi j'ai une trajectoire un peu plus particulière, c'est-à-dire que je suis née au Congo. Littéralement, quand on me demandait bah tu viens d'où, je me disais bah oui, en effet, je viens de quelque part. Et donc j'ai dû m'adapter à ça. J'ai été la blédarde pendant un moment. On me disait mais t'as un accent, mais en même temps tu parles hyper bien français. Mais c'est comment ? Et en fait je me disais mais en effet, la France ne connaît pas son histoire parce que je parle français, parce que le Congo est une ex-colonie française.
À quel âge vous l'avez eu cette discussion, the talk ?
The talk, oh bah moi c'était un peu plus tard parce que je suis arrivée en France un peu plus tard, mais vers 13 ans, 13-14 ans.
L'adolescence.
Oui, c'est ça.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Elle sonne une charge, justement, contre la charge raciale, cette charge mentale qui ne s'arrête jamais, que vivent les personnes racisées. Douce Dibondo est notre invitée cet après-midi pour zoomer sur ce concept donc de charge raciale. Partons peut-être de votre expérience, Douce. À quel moment vous avez commencé à l'éprouver, vous, cette charge raciale ?
Cette charge, moi, je l'éprouve à partir du moment où j'arrive en France, où je me rends compte que mon corps fait partie d'un bloc monolithique à cause d'une histoire en fait que la France n'a pas du tout réglée. Je suis renvoyée à des stéréotypes d'incapacité intellectuelle, toujours fâchée, mal polie, etc., etc. Donc en tant que personne noire, en tant que femme noire.
Pardon, une question me vient spontanément. Oui. Dès qu'on discute 5 minutes avec vous, c'est impossible de... Enfin, je ne sais pas comment on peut continuer à avoir des préjugés sur vous très vite. Vous sentez que ça s'efface très vite ou au contraire, ce que vous percevez, c'est que ça persiste quelque part?
Oui, mais c'est toujours l'ambivalence, en fait, vous savez. Soit je suis vue comme... Donc quand je ne parle pas, on va dire, je suis vue potentiellement comme ces autres-là qui viennent de la noirie, quoi, donc ce bloc monolithique. À partir du moment où j'ouvre la bouche, on se dit, ah tiens, elle a les code justement de cette blanchité-là, de l'idéologie blanche. Tiens, donc elle est assimilable, assimilée. Ah, donc, mais elle, c'est une noire d'exception, comparée aux autres. Oui. C'est toujours ça, en fait. Donc, qu'à la fois qu'on soit loué ou dénié dans notre couleur de peau, c'est toujours cette ambivalence-là. Et c'est ça, la charge raciale.
Vous dites, toutes les personnes racisées sont des génies de l'adaptation. Ça, c'est vrai qu'en tant que blanc, on n'a pas l'occasion de réfléchir à ça, mais si on se met une seconde dans votre peau, tous des génies de l'adaptation dans nos sociétés.
Ah oui, totalement. Et c'est, en fait, c'est là, et ce génie de l'adaptation, il vient avec un prix. En fait, en général, on sait ce que les dominants pensent parce qu'on les a étudiés, parce que de l'école jusqu'à la vie d'adulte, on sait comment ça fonctionne, et le contraire très peu. Et donc il y a ce manque d'empathie là, et ce manque d'empathie dans les institutions que sont le couple, la famille, le travail, on le ressent très très fort. Il y a un écart qui se crée, et on est toujours en train de compenser. On est toujours là, on joue toujours à la grande personne, celle la plus mature dans les couples en général, par exemple interraciaux, même si le terme est un peu barbare. Cette question là de est-ce que je parle ? Est-ce que je fais de la pédagogie ? Est-ce que j'endosse quel rôle ? Est-ce que je suis l'amante ? Est-ce que je suis l'enseignante ? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose comme ça et en fait à un moment donné, soit on abandonne et on cherche un amour, en tout cas avec des personnes qui nous comprennent à ce niveau-là, au niveau de la race, même si en général c'est pas non plus la solution idéale, parce qu'il y a d'autres contextes aussi et d'autres aspérités.
Pour donner un exemple concret de ce que vous pouvez vivre au quotidien et qu'on a du mal nous à voir de notre côté quand on est blanc, dans votre livre, une personne martiniquaise vous confie avoir toujours un livre dans les transports en commun pour adoucir son image et éviter le regard des policiers. Donc ça c'est quelque chose qui existe déjà, c'est fou, mais qui est assez fréquent.
Oui, c'est ça. Et en fait, en 2019, quand je rencontre ce terme, j'écris un article là-dessus. Et donc, j'ai une vingtaine de témoignages de personnes qui racontent leur vécu. Et cette personne me marque, d'origine martiniquaise, donc avec les cheveux loxés, homme. Et donc, il y a toute une peur de la police, surtout, se confronter aux violences policières. On adoucit notre corps, on le polie avec donc, un objet culturel. Là, tout de suite, en fait, les mamies ne sont plus apeurées, quoi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la douceur.
Est-ce que par moment, vous avez l'impression de perdre, en fait, votre personnalité, de perdre ce qui fait vous aussi ?
En tout cas, oui, je pense que beaucoup de gens le partagent aussi. Moi, pendant très longtemps, j'ai somatisé, littéralement, parce que j'étais coupée de moi-même. J'avais des calculs au foie, parce que je somatisais, parce que je ne respirais plus. J'étais tout le temps dans le mode survie, mon système nerveux était en alerte. Et en général, les psys, les professionnels de la santé ne voient pas cette part-là de la charge raciale. On va souvent l'amputer à des problèmes familiaux, le rapport à la mère, au père. Mais en fait, les personnes racisées, nous, ce qui nous tue à petit feu, c'est aussi cette charge raciale-là. En fait, c'est l'environnement dans lequel on vit qui est toxique pour nous.
Et ça vous tue, en tout cas, ça vous fait mal d'autant plus fort que beaucoup de gens, j'imagine, n'ont pas conscientisé cette charge raciale. Ils vivent tout ce que vous décrivez, tout ce que les témoignages disent, mais en revanche, ils ne se disent pas, ça, calme-toi, ça relève de la charge raciale. Non, ils ne savent pas, juste, c'est en eux.
Il y a les mots sont difficiles à trouver, mais le vécu est tout à fait le même. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce que ça me semblait mais tellement nécessaire et vital qu'on appose ces termes-là et que les gens comprennent et qu'on s'étudie déjà entre nous aussi, entre personnes racisées, qu'on fasse de l'éducation populaire à ce niveau-là et que ensuite les psys, les chercheurs s'emparent de la question.
Et ce qui est un peu compliqué à dire, peut-être, c'est que vous l'écrivez d'ailleurs, que l'expérience noire est souvent censurée par les personnes noires elles-mêmes afin d'éviter le statut d'éventuelles victimes qu'on leur accole. Mmh. Donc c'est-à-dire que, évidemment, c'est à nous les Blancs de faire un effort prioritairement, mais au sein même de la communauté noire, le terme est un peu global, mais c'est aussi à vous de faire un effort pour détricoter tout ça ?
Oui, je prends souvent, moi j'aime bien faire les analogies, quand on vit un trauma, ce qu'on vit tous les jours, quand on vit un trauma racial en fait, un trauma colonial, notre corps, notre système nerveux se défend et se protège en coupant la parole et en coupant la mémoire en général. Et nous on le vit à une échelle collective. Et donc l'autocensure qu'on a reçue de nos parents qui ont vécu des choses atroces, où il y a une rupture de transmission en général dans les familles, et bien ça on crée des secrets comme ça dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, on se doit d'être fort, on se doit de surpasser ça. Donc on ravale toujours ces émotions-là et on fait comme si le statut de victime n'était pas un statut juridique et qui demandait en fait des réparations, tout simplement. Et ça, c'est dur aussi à faire avouer aux personnes qui, en tout cas, ne sont pas coupables. Mais c'est un aveu limitant de parler de racisme.
Pour parler de la charge raciale, Quentin, vous êtes allé interroger les gens au hasard des rues.
On part aujourd'hui en vadrouille, on commence dans un taxi près de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris.
Bonjour, je m'appelle Balik Ben Hamouda, je suis chauffeur de taxi.
Et je pose sur l'accoudoir en cuir du taxi mon portable et je fais lire à Balik la notion qui nous intéresse aujourd'hui.
La charge raciale. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit que l'individu qui est de différentes cultures ou de différentes ethnies doit supporter sur le regard et les critiques des autres.
Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que ça a été votre cas dans la vie ?
Ah oui, les Arabes. Enfin, les bougnoules, quoi. C'est... Donc, il a fallu faire un très, 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 très gros travail d'intégration. Quand bien même on serait intégré, on est toujours l'arabe de service, quoi. Par exemple, quand j'étais patron d'une agence immobilière, on m'a dit « Ah bon, c'est vous le patron ?» De se dire « Bah tiens, c'est parce que je suis arabe que je ne peux pas être patron d'une agence immobilière. Il faudrait quoi que je ramasse les poubelles ?»
On longe les quais de Seine et il me répond en regardant dans son rétroviseur central « La charge raciale, ça touche les proches également. »
On va parler de ma femme, donc ma femme qui est alsacienne allemande, qui justement, quand on va lui poser la question, son mari vient d'où ? Il vient de Djerba. Elle dit « Ah bon, il est musulman ?» Et elle répond « Oui ». Et la question qu'on lui... Il ne vous a pas converti ? Il n'a pas essayé de vous convertir ? Ça, c'est plus qu'un cliché même, ça c'est vraiment... Parce que t'es djerbien, t'es musulman, donc il faut convertir, quoi.
Je remercie Balik qui me dépose du côté de l'Opéra Garnier. Et c'est ici que je rencontre ce monsieur. Écharpe à carreaux, manteau bleu marine.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, quel est votre prénom ?
Philippe.
Philippe, vous avez quel âge ?
66 ans. Je suis retraité, j'étais avocat avant.
Que pense-t-il de notre sujet du jour sur...
La charge raciale, ok. Ça paraît comme ça un peu difficile, mais quand on rationalise les choses... on peut considérer qu'il y a des coutumes qui sont peut-être pas adaptées à notre monde, à nous. Alors après, dire que c'est une charge, c'est peut-être pas le bon mot. Quoi.
Voilà. Ah oui ? Vous auriez mis quel mot, vous ?
L'adaptation.
Voilà, l'adaptation. Ah oui. Ce qui dérange Philippe, c'est qu'à ses yeux, on divise la société, surtout avec cette notion.
Vous avez les Blancs, puis vous avez les autres. on peut pas imaginer autre chose que qu'un conflit, voilà, avec des jaunes, des noirs, des basanés, enfin j'en sais rien.
Oui, alors, c'est un peu maladroit. J'ai juste que j'ai plus de facilité dans la vie que si je m'appelle Babacar, en m'appelant Quentin, ici à Paris en 2024.
Si je puis me permettre, la race, il n'y en a qu'une, c'est la race humaine, ok ? Il n'y en a pas d'autre. Attendez, on utilise le mot racial, quoi. Et c'est encore pour culpabiliser un peu les gens, je trouve ça dommage. Alors qu'on fait quand même beaucoup de choses dans ce pays pour accueillir les gens.
Si seulement c'était si simple. Je salue Philippe, l'humaniste qui se dévoile assez tard dans l'échange. Elle sort d'une boutique, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Astrid, j'ai 32 ans et je suis professeure de français à Pierrefitte-sur-Seine.
Sa doudoune flashy, ses baskets, son énergie, sa peau noire et ses tresses colorées, elle réagit à ce que je lui fais lire.
Ah, je me sens pleinement concernée par cette charge raciale. C'est le fait de toujours devoir faire attention parce qu'on est noir, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, faire attention à comment on s'habille. C'est quelque chose qui prend la tête au quotidien. Moi, je le vis. Déjà, je suis prof de français. Quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans ma carrière, il y avait des parents qui ne comprenaient pas que moi, femme noire, enseigne le français à leurs enfants blancs. Et donc j'ai quand même fait la Sorbonne, j'ai un master, j'ai un concours. Pourtant, à cause de ma couleur de peau, des gens remettent ça en question.
On parle du pro, mais la charge raciale, elle la sent dans sa vie personnelle et en tant que femme.
Les regards, déjà les rencontres avec les mecs où je serais censée être une lionne, une tigresse sexuellement.
C'est ça, donc, ça vous arrivait après des
dates ? Ça m'est déjà arrivé avant, après, pendant. Quoi d'autre, les phrases comme d'où viens-tu alors que je suis née en France, j'ai vécu toute ma vie en France, près de Paris, et que je me sens pleinement française.
Les clichés qui se succèdent, les tenues vestimentaires, comment se comporter face aux autres, comment encaisser les clichés, comment répondre à cette même question au milieu d'une soirée. T'as des origines, toi, tu viens d'où ? Maladresse, racisme ordinaire, dans la rue, en discutant au final, on imagine assez vite le poids de cette charge raciale.
Une autre charge encore plus invisible que la charge mentale, la charge raciale. Douce Dibondo, autrice, je le rappelle, de la charge raciale Vertige, d'un silence écrasant paru le mois dernier, est avec nous. Beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. Astrid, cette prof de français qui raconte qu'il y a 10 ans, au début de sa carrière, certains parents ne comprenaient pas pourquoi une femme noire enseignait le français à leurs enfants. Ça paraît bien hallucinant, mais aujourd'hui encore, on remet en doute la fonction, le statut à cause de la couleur de peau.
Oui, bien sûr. Mais en fait, notre couleur de peau, malgré le statut, et on peut le voir avec ce qui se passe avec Aya Nakamura, Aya Nakamura démonte, en tout cas, rend compte de la friabilité de ce que c'est que la méritocratie. On aura beau être au sommet de la pyramide, notre couleur de peau ne se diluera jamais dans le territoire qu'est la République française. Parce que noir égale précarité, pauvre, esclave, etc., etc. Donc il y a une dissonance à chaque fois. En fait, nos corps sont à la fois survisibles, parce que noirs, dans une majorité blanche, et invisibles, parce qu'on estime qu'on doit justement raser les murs, nettoyer la France. Quand on commence à s'exprimer au nom de la France, là, il y a quelque chose qui dénote. Et donc, quand la femme qui est interrogée parle de son expérience, tout de suite, elle a le réflexe d'apposer en fait ses compétences, pour montrer à quel point elle a le droit d'être là, d'exister, parce que c'est ce qu'on nous demande, faire 3-4 fois plus.
Est-ce que si, pour reprendre l'exemple de Aya Nakamura, si elle dérange autant, c'est parce qu'elle montre que justement, elle n'a pas envie de subir cette charge raciale, vous pensez ?
Oui, je pense qu'il y a à la fois, en fait, c'est pas tant qu'elle n'a pas envie de la subir, je pense qu'elle l'a subi parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est historique, c'est interpersonnel, c'est à l'intérieur de nous aussi, on la porte, mais elle ne se sacrifie pas, elle ne porte pas le masque de la bonne française, avec la chanson française à voix, tout à fait, la parisienne, chic.
Elle s'en fout, parce qu'elle arrive à un niveau de notoriété totalement. Où elle se dit, mais je fais ce que je veux.
Et même il y a 10 ans, Aya Nakamura a toujours été comme telle, donc femme puissante, féministe malgré elle, même si elle ne le revendique pas. Et c'est ça qui dérange.
Et quand dans la rue on parle de charge raciale, on le voit avec Philippe, cet homme de 66 ans, blanc, qui dit « Ah ouais, mais voilà, c'est encore pour nous culpabiliser ». On arrive à sortir cet argument-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je trouve que c'est bien. en fait, que ce soit cet argument-là qui sort. Ça montre qu'il y a un malaise. Mm-hmm. Mais le malaise, il est dur à déterrer. Mais tout de suite, c'est une projection pour moi. C'est une projection qui est collective aussi au niveau de la France. À partir du moment où on veut mettre en avant quelque chose, notamment les problèmes de racisme, tout de suite, on est renvoyé à un soupçon de vengeance, de vouloir demander des excuses, etc. Alors que c'est pas tant ça. C'est vraiment juste montrer à quel point ce racisme, à cause de l'inconscient collectif, il est toujours présent en France. Et ensuite, mettre des choses en place, des formations pour les élèves, pour les professeurs, etc., dans tous les corps de métier, pour qu'on puisse enfin respirer et s'alléger, quoi.
Mais là, on l'entendait quand même dans le micro-trottoir, pour reprendre l'exemple de Philippe, donc il y a plus de 60 ans, il y a un gap générationnel aussi, du coup, là-dessus.
Oui, mais les natifs qui ont brandi la carte de Aya Nakamura, très jeunes, hein, j'ai envie de dire, l'argument de la jeunesse, c'est pour nous détourner une fois de plus, en fait, du réel problème, à mon avis.
Vertige d'un silence écrasant, c'est le titre de votre livre, Douce Dibondo. Ensemble, on zoome cet après-midi sur cette notion de charge raciale, même si dans votre livre, on apprend plein d'autres expressions, par exemple. Alors ici, on a fait une émission sur le gaslighting, un art de la manipulation particulièrement retors qui frappe les femmes. Vous parlez-vous d'un gaslighting racial qu'on vous fait subir? Expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
Oui, alors c'est cet ami qui vous persuade, qui essaie de vous convaincre alors que vous avez les preuves, les faits par A plus B que cette blague, que cette attitude est raciste, et il va trouver tous les moyens possibles détournés pour dire que son intention n'était pas celle-là, qu'il a un ami noir, arabe, que... En général aussi, il y a les enfants aussi métis hein, qui rentrent parfois en jeu, qu'il a passé 10-15 ans en fait dans un pays et qui connaît très bien tel ou tel pays d'Afrique, etc. Donc, et en fait, c'est surtout au-delà de ça, c'est l'inversion en fait de la culpabilité. On nous fait comprendre qu'en fait ce qu'on dit c'est extrêmement méchant et qu'en fait parler de racisme et accuser comme ça une personne de racisme, mais en fait c'est faire violence à cette personne. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On intériorise, on se dit on va couper net la conversation parce que là tu commences à pleurer et je m'en veux en fait. Donc on arrête.
Mais
on s'est fait gaslighter.
Mais ce qui paraît fou, c'est qu'on ne peut pas discuter de ce que ressent une personne. Si vous vivez une blague ou une situation comme quelque chose de raciste, personne ne peut vous dire non, c'est pas raciste, t'as pas compris.
Mais, en général, au-delà du ressenti, c'est qu'on apporte des preuves en disant qu'en fait, ce sont des choses qui ont été étudiées. L'humour raciste, il y a toujours des biais, en fait, avec l'accent, avec l'utilisation de certaines images, de singes, de bananes, de pastèques aux États-Unis. En fait, on connaît tous ces codes-là parce que c'est pas la première fois qu'on vit ça. En fait, on a une expertise autour de ces questions-là. Et on dit, en soi, tu n'es pas raciste, mais ce que tu viens de dire, c'est raciste. Mais la personne ne l'entend jamais comme ça.
Et
jamais.
Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui s'élèvent contre le wokisme et tout ça, qui disent ça réduit le champ de la parole, en fait, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur expliquer gentiment?
Alors gentiment, je ne sais pas, parce que c'est très compliqué. C'est très agaçant en fait à chaque fois de garder son calme, d'intérioriser, de ne jamais paraître hystérique pour être enfin comprise, parce que en fait ce qu'on vit c'est très difficile. Moi je dirais à ces gens-là, mais regardez concrètement qui a le droit à la parole dans les espaces médiatiques. On ne peut plus rien dire et pourtant vous êtes au micro d'une matinale. Et vous plaignez. Donc c'est ça aussi. Va falloir être dans un certain relativisme en fait.
Dans le livre, vous revenez sur le terme racisme ordinaire, car vous le trouvez inapproprié. Pourquoi ?
Je trouve que c'est pas très ordinaire, en fait, le racisme. Peu importe son expression, sa manifestation,
qu'est-ce
peu importe
dire
la force.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Moi, je parle en général, on parle souvent de racisme systémique ou institutionnel. Ouais. Quoi. Là, tout de suite, il y a un peu plus de force que racisme ordinaire. Même si, c'est vrai que ça montre à quel point on subit des micro-agressions. C'est cela qu'en fait, que le racisme ordinaire, entre guillemets, met en avant. C'est ces petites piques qu'à la fin de la journée, en fait, on a totalisé.
C'est l'accumulation
de violence. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, dans votre livre, pardon, c'est sur l'origine du racisme, vous parlez de la banalité du mal. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, je reprends une expression d'Hannah Arendt hein, qui en parle après la Seconde Guerre mondiale, où on se rend compte du processus en fait de la banalisation du mal lors du règne en fait des nazis en Allemagne, où donc des cadres en général se sont défaussés de leurs responsabilités. On dit que c'était à cause de l'ordre hiérarchique militaire, qu'ils ne faisaient que suivre l'ordre. Peu importe la gravité et l'horreur en fait qu'ils ont dû commettre. Et dans la banalité de ce racisme-là, c'est très séculaire parce que on remonte à 400 ans, mais on le voit bien dans la manière dont certains sujets sont banalisés, certaines polémiques sont lissées, comment la situation en Palestine, pour moi, qui rentre totalement dans cette charge raciale où, en fait, en tant que personne racisée, on se voit à travers ces corps qui sont mutilés et tués, en fait, et on porte justement cette charge de la responsabilité de sortir de cette banalité du mal, parce que c'est un devoir, en fait, pour nous.
Est-ce que cette charge raciale, elle a une connotation différente quand on est un homme ou quand on est une femme, ou c'est deux choses qui se vivent aussi horriblement d'un côté comme de l'autre?
Oui, alors je dis souvent que notre noirceur, notre couleur de peau nous précède. En général, quand on me voit, on voit d'abord ma couleur de peau avec tous les stéréotypes qu'il y a, donc toute cette menace du stéréotype. Et puis, selon le degré de déconstruction entre guillemets de la personne, on va voir en tout cas une femme noire avec la misogynie noire, avec le sexisme, etc. Mais quand je voyage à travers le monde, pourquoi les gens me prennent en photo? C'est pas tant parce que je suis une femme, mais parce que je suis noire et que je suis un divertissement pour ces personnes. Et évidemment, par exemple, au sein d'institutions, on va dire un peu plus intimes, comme le couple ou la famille, oui, j'ai une charge esthétique lié au colorisme, parce que j'ai la peau foncée. J'ai une charge mentale en plus, si je suis dans un couple hétérosexuel. J'ai la charge du soin aussi de la famille, des gens autour de moi, et aussi dans les milieux militants. Enfin bref, c'est vraiment toutes ces intersections-là qui font que la charge raciale, elle est subie de manière encore plus dense.
Pour comprendre jusqu'où ça va, cette charge raciale, il y a aussi un passage dans le livre sur les risques de la charge raciale pour la santé. C'est pas juste psychique, c'est la santé tout simplement.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, tout est lié dans tous les cas. C'est le fait de vivre ce racisme dit vicariant, donc indirectement, entendre à la télé, sur les réseaux sociaux, tous ces phénomènes-là racistes, et ben ça, une fois de plus, on intériorise, on passe à côté de certaines choses, on se dit qu'on va devoir être résilient, et en fait, au fur et à mesure des années, on somatise. C'est ce que certains chercheurs appellent donc une charge allostatique, des comorbidités en fait. Mmh. On accumule des comorbidités, des maladies chroniques, des risques de faire un AVC ou ce genre de choses. C'est prématuré pour les personnes noires et les personnes racisées. Et en fait, une des définitions notamment du racisme qui moi mais c'est viscéral à quel point ça me fait mal quoi. C'est de rencontrer la mort prématurément. C'est ça la charge raciale. Et il faudrait en fait commencer à s'alléger de tout ce poids-là.